Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoir. L'Imaginoir est une émission radio réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas, ou si vous êtes de la famille, un aidant, une structure associative locale ou nationale, eh bien contactez-nous et faisons ensemble. Liberté d'expression et sensibilisation du grand public sont, pour faire très court, nos principaux objectifs. Écrivez-nous à l'imaginoir, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R, @lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, YouTube ou Facebook. Dans cet épisode, l'imaginoir repasse en mode portrait inspirant. On part à la rencontre d'Odile, fraîchement retraitée, mais plus que jamais en activité. Mais je n'en dis pas plus et lui laisse le soin de vous expliquer tout ça. On vous souhaite une bonne écoute.
Odile Faucon.
Et une belle rencontre.
Retraitée.
Depuis quand?
Depuis 3 ans.
Est-ce que c'est la belle vie?
C'est la belle vie. J'habitais un tout petit village. J'ai eu un petit problème visuel à l'âge de 7 ans. Donc une dégénérescence maculaire, mais très légère, qui m'a empêchée de voir au niveau central. C'est une déficience visuelle centrale, mais qui m'a permis de continuer mes études, enfin sans problème. Voilà, c'était juste une petite perte visuelle. Mais c'était vraiment imperceptible. Hein. Mes parents s'en sont aperçus parce que je lisais énormément et je m'étais approchée un peu plus du livre. Donc ils se sont un peu inquiétés et c'est là où on s'est aperçu que je n'avais plus de vision centrale. Je ne me suis pas fait plus de soucis que ça, sachant que j'y voyais, que je faisais tout ce que j'avais envie de faire. Hein. J'ai eu 2 enfants, j'ai beaucoup voyagé, j'avais une galerie d'art contemporain, je bougeais beaucoup. Voilà, je suis une personne qui... Voilà, ça ne m'a pas empêchée de faire plein de choses. C'était très léger. C'est que cette déficience avait un deuxième stade. Et le deuxième stade, je l'ai eu à 45 ans. Voilà, où j'ai perdu complètement la vue en 6 mois. Totalement, sachant que je vois le clair et le sombre.
D'accord.
Voilà, c'est très infime. Je ne suis pas complètement dans le noir. Donc c'est important aussi, okay. Hein, pour, au niveau de ses repères visuels. Dans sa maison, dans son jardin, dans la rue, voilà. Mais après, ça a été plus compliqué, puisqu'il a fallu quand même que je parte dans une clinique de rééducation qui s'appelle la RAMAV à Nîmes. Donc je suis partie pendant 4 mois. Donc mon entreprise, à ce moment-là, trouvait des solutions pour que je puisse reprendre mon travail, entre guillemets, normal. Donc, quand je suis revenue de ces 4 mois de semi-hospitalisation, puisque j'y allais le soir et le matin et je rentrais le soir, j'avais des cours de ce qu'on appelait de vie journalière. On réapprenait à marcher, à manger, à empiler des cubes avec des ergothérapeutes. Voilà, on réapprenait la vie comme un enfant. Et j'ai accepté de jouer le jeu et ça m'a fait énormément de bien. J'étais aussi suivie par une psychologue. Au bout de ces 4 mois, j'ai pu reprendre une activité entre guillemets professionnelle. Alors je me suis mise à mi-temps, par contre, à temps partiel.
Par rapport à votre sensibilité au monde de l'art, qu'est-ce que ça a changé de perdre la vue?
Oh, j'ai tout arrêté, donc en 2008. Et j'avais envie de reprendre des repères culturels dans ma ville, parce que j'avais fait énormément de gros projets. J'avais travaillé avec des personnes comme Yann Arthus Bertrand, comme Alain Miquely, comme... voilà. Et j'avais envie, voilà, pour moi, là c'était égoïstement pour moi, de recréer un petit projet culturel. Et ben, il n'y avait qu'une chose à faire, hein, c'était me lancer dans la programmation de pièces de théâtre, de lecture, de poésie. Et comme j'ai un appartement qui est un peu atypique, j'ai pu organiser et créer ce petit lieu donc de 29 personnes. Voilà, je n'étais pas seule. J'ai toujours travaillé avec un entourage qui était partant pour tous les projets, aussi bien pour les projets que de l'association Valentin Oui que des projets de la Maison de la Parole. On ne peut pas travailler seul si on n'est pas accompagné. Ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est qu'en 2008, j'ai rencontré l'association Valentin Oui par le biais d'un ami ophtalmologiste d'Avignon qui m'a obligée à y aller. Et là, je me suis dit, il faut que j'aide ces personnes. J'ai décidé de devenir formatrice en informatique adaptée et de faire évoluer cette activité au sein de l'association, dont je suis devenue présidente aussi pendant plusieurs années. De là, j'ai travaillé aussi pour l'association et la Fondation Valentin Oui sur Paris. On était un groupe de 13 personnes et on a créé aussi un institut de formation en informatique adaptée et nouvelles technologies qui rayonne sur toute la France. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie de se former et de former par la suite peuvent venir, où tout est pris en charge par la Fondation et l'association.
Vous êtes bien à l'écoute du portrait inspirant d'Odile. Il est temps maintenant de parler d'Avignon, de son festival et de la salle dont Odile s'occupe. Vous êtes à l'écoute de l'Imaginoir, retour à l'entretien.
Avignon est une ville avec de nombreuses salles de spectacle, hormis que les compagnies louent la chaise. Voilà, et ça coûte très cher, c'est-à-dire une salle de 50 places, c'est entre 5 000 et 6 000 euros le créneau horaire. Et ce que j'ai décidé de faire, puisque moi j'étais salariée d'une grosse entreprise, donc j'ai décidé de travailler avec ces compagnies en co-réalisation. C'est-à-dire que dès la première année, quand les compagnies ont su que je permettais à des artistes de venir à moindre coût, ah ben, je ne vais jamais les chercher, c'est eux qui viennent à moi.
Ouais, bien sûr.
Et ça m'a permis, je programme en principe 8 spectacles par jour, à peu près 8 sur 3 semaines.
Pendant
le festival d'Avignon. Voilà.
D'accord.
Après, je vous dis, pour toute la partie technique, j'ai mon compagnon, Jean-Louis, qui est très présent. La partie sécurité aussi, parce qu'on ne sait pas que d'être programmatrice. Moi, j'ai le plus beau rôle. Puisque moi je programme et puis je crée mes créneaux horaires en fonction des desiderata des artistes et des fois ce n'est pas simple. Voilà, j'y insère un spectacle d'enfants le matin et puis surtout beaucoup de textes et de poésie. Voilà. Et les personnes qui viennent dans la petite salle sont des personnes qui vont dans des grandes salles, qui vont dans le IN. Moi je fais partie du festival OFF. Elles recherchent autre chose, elles peuvent complètement fermer les yeux et se laisser entraîner et puis se laisser ouvrir sur la moindre parole qui est dite. C'est un rapport complètement différent. Déjà, on est proche de l'artiste, puisque bon, c'est tout petit. Et je fidélise des spectateurs qui viennent tous les ans parce qu'ils savent qu'ils vont trouver autre chose que dans les autres salles où je vais, où je me rends aussi. Mais c'est un peu différent, voilà. Et en 2016, j'ai eu le prix du OFF dans la catégorie poésie, conte et lecture.
D'accord.
Voilà, j'étais très fière. Ah non, il faut s'ouvrir, il faut sortir. C'est pour ça que je prône l'informatique adaptée et tout ce qui est nouvelles technologies. Ça recrée un lien social déjà avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Quand vous êtes capable d'écrire un courrier ou d'envoyer un petit mail ou d'appeler sur WhatsApp, de créer une petite réunion familiale ou autre, de travail. On est vraiment dans l'ère des nouvelles technologies. Et nous, ça nous apporte énormément. Même pour les jeunes qui ont la chance de faire des études, parce qu'avec tout ce qu'il y a maintenant, quand vous voyez que les plages de braille, elles font 20 cm, qu'on peut travailler avec des petits ordinateurs de 11 pouces, qu'on peut se déplacer avec un GPS. Je ne dis pas qu'il est toujours fiable, mais ça peut quand même pas mal aider. On a beau critiquer en France, mais on a droit à des assistances, aussi bien au niveau aéroport que gare SNCF, transport en commun quand même. On peut faire des choses. On peut sortir, on peut bouger. Vous savez, un jour sur un quai, mon train bien sûr a été en panne et j'ai dû changer de train. Bien sûr, j'étais complètement perdue parce que changer de train quand on vous annonce que vous n'avez pas d'autre choix. Je suis descendue sur le quai, j'ai demandé à une personne que je sentais à côté de moi en lui demandant si éventuellement il pouvait me prêter son bras pour aller reprendre le deuxième train. Il a accepté sans problème et il m'a dit « Vous savez, c'est la première fois que je vois une personne non-voyante voyager toute seule. » Voilà. Plus les personnes sortiront avec leur canne blanche ou leur canne jaune pour des personnes qui sont très malvoyantes, plus les gens feront attention et plus on sentira qu'il y a quand même un problème. Parce que, bon, une personne sur 50 dans le Vaucluse est malvoyante. Moi, je vous donne les chiffres du Vaucluse, parce que, voilà. Une personne sur 1000 est non-voyante. Déjà qu'une personne sur 50 est malvoyante, voilà, elle ne peut ni lire ni écrire. C'est quand même énorme. Et ces personnes ne sont pas en EHPAD, contrairement à ce que des fois on voudrait nous faire croire. C'est-à-dire que nous, souvent à l'association, on a des personnes à partir de 35, 40, 45 ans, 50, 55 ans, même 60 ans qui arrivent, qui perdent la vue en quelques temps. Il y a beaucoup des MLA. Et puis autre, la maladie de Stargardt comme celle que j'ai, des accidents de la vie. Et quand j'ai repris la présidence de l'association Valentin Aoui, je me suis trouvée avec un groupe de personnes qui perdaient la vue presque en même temps que moi. Alors, des patrons d'entreprise, des médecins. Et de là, on a décidé que il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça que Jean-Paul a créé l'activité Tandem, qui est énorme au niveau du Vaucluse. Christine s'était occupée de la partie accessibilité. Jean-Pierre s'est occupé de la partie randonnée. Moi, je me suis occupée de la partie de tout ce qui était nouvelles technologies et informatique adaptée ainsi que des formations. La partie culture, parce que c'est quand même intéressant d'aller au théâtre, faire une exposition en audiodescription. Donc, parce que maintenant, on a des films en audiodescription, on a des systèmes d'exposition. Mais avant, on faisait ça comment ? On avait une personne, Jacomina Dussol, qui venait avec ses casques et qui nous audiodécrivait en direct. Donc, des films au cinéma, du théâtre, des expositions. C'était quand même intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on était dans la vraie vie. Après, j'ai travaillé beaucoup aussi avec la Fondation Calvé, le musée Calvé. C'est-à-dire qu'ils ont créé des plaques tactiles qui permettaient donc de découvrir 7 ou 8 tableaux. Donc en écoutant un texte, donc j'ai travaillé sur ces textes. Parce qu'il y a une façon aussi d'appréhender un tableau quand on peut le toucher ou une sculpture, voilà. Il y a une façon de faire, un départ aussi, partir sur les côtés, avancer par le milieu. Enfin voilà, c'est toute une appréhension qu'on apprend et qui vient après naturellement. Donc c'est vrai que j'ai toujours quand même gardé mon petit côté culture. J'ai toujours voulu, je fais beaucoup d'expos avec Jean-Louis, qui m'audio décrit des tableaux. Alors, soit des tableaux que j'ai déjà vus, l'art contemporain, c'est compliqué, mais bon, voilà, soit des peintres contemporains ou autres que j'aime, et ça me permet de vraiment un véritable plaisir. Voilà, je n'y vois pas, mais mais je vois à travers ses yeux. Pareil, on essaie de voyager le plus possible, et pareil, hein, tous les paysages, les fleurs, là on rentre de Martinique, je peux vous dire que j'ai touché toutes les fleurs qu'il a prises en photo, parce que c'est tellement fantastique, ces fleurs, voilà, je ne vous voyais pas, mais vous les imaginez. C'est quand même un petit avantage d'avoir perdu la vue tardivement, parce qu'on a tous nos repères visuels. Voilà. Alors, en France, il y a de moins en moins d'enfants qui naissent non-voyants. Bon, parce qu'on est déjà bien soignés, et heureusement. Donc, malheureusement, ce sont des pertes visuelles, soit dans l'enfance plus tardive ou à l'adolescence. Ou alors, je vous dis, voilà, plus tard. J'ai toujours aimé aider des personnes, aussi bien dans la culture, socialement. Voilà, parce que j'estime que quand on apporte quelque chose à ces personnes-là, on nous le rend. On nous le rend automatiquement. Voilà, après, c'est ma façon de vivre, hein, c'est ma façon. Depuis tout le temps, ça fait 43 ans que je suis dans l'associatif et je ne reviendrai pas sur tout ça. C'est trop important pour moi. J'aurais été incapable de créer une entreprise. Par contre, monter des projets avec une équipe, j'adore. Sachant que si on s'entoure des bonnes personnes et de belles personnes, ben on peut faire énormément de choses. Quand j'ai perdu la vue, il a fallu que je trouve un transport pareil pour aller le matin travailler et le soir pour rentrer. Parce que pendant 2 ans, je n'ai pas voulu toucher à ma canne blanche quand même pour sortir de chez moi. Donc, je suis devenue présidente d'une association qui s'appelait Minibus Service, qu'on a fermée l'année dernière, qui transportait des personnes socialement en difficulté. On les transportait parce qu'elles avaient trouvé du travail ou des formations. Donc, c'était vraiment voilà, ponctuel, c'est-à-dire sur 4 à 6 mois, 1 an, le temps qu'elles puissent trouver un peu d'argent ou qu'elles puissent se remettre à flot pour s'acheter, je ne sais pas... un vélo électrique, une voiture, etc. Pour se déplacer. Et moi, du coup, j'ai profité en tant que présidente de l'association de ce petit avantage, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai mon chauffeur qui venait me chercher devant la maison et qui m'amenait à mon bureau. Après, je me suis mieux débrouillée, mais quand même, voilà, c'était important. J'ai eu une prise en charge complète, c'est ce que je vous disais. J'apportais d'un côté, mais on me donnait 100 fois plus de l'autre. Et puis, je vous dis, très entourée.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous sommes toujours en compagnie d'Odile et il nous reste tout de même un petit peu de temps pour aborder un autre sujet important. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. Retour à l'entretien.
Moi, je suis toujours contente. Je suis toujours heureuse quand on me dit « Ah, ben, il y a ça qui a été fait ». Mais non, il n'y a rien qui est fait. Alors, au niveau accessibilité, c'est catastrophique. Catastrophique. Au niveau d'une gare comme Avignon, et qui vient d'être refaite, qui n'est pas du tout accessible aux fauteuils roulants, admettons. Ils nous mettent des poteaux avec des bords très anguleux, alors que la législation dit qu'il faut des potelés 2,20 m avec le bout en haut arrondi. J'avouerai qu'il y a beaucoup de choses en accessibilité qui pêchent et on n'arrive pas à faire avancer les choses. Ça, c'est l'accessibilité donc dans notre entourage immédiat pour nous permettre de nous déplacer beaucoup plus facilement. Il y a une autre accessibilité auquel on ne pense pas, ce sont les sites. Des sites accessibles, il y en a très 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 peu. Ça veut dire qu'on se sent toujours un peu mis à l'écart. Alors déjà parce que les images ne sont pas audio-décrites, on ne demande pas qu'elles nous soient audio-décrites complètement, hein, juste, je parle d'Avignon, mais vu du pont d'Avignon sur le Rhône, juste ça, on n'est pas obligé de savoir les couleurs. Hein. Des liens, c'est très facile d'avoir des liens sur un site qui sont bien nommés, où on peut aller très facilement, des menus déroulants. Il faut aller au plus simple et malheureusement, ce n'est pas ça qui prime. J'interviens dans des formations de jeunes webmasters hein, à Avenir 84, qui est un centre de formation, pour leur dire effectivement, vous faites des sites très beaux, hein, mais déjà, faites attention au contraste pour les personnes malvoyantes. Hein. Parce que voilà, des contrastes jaune et rouge, c'est extra. Hein. C'est-à-dire que les personnes vont vraiment voir soit les images, soit les informations qui vont défiler devant elles. Si vous mettez du bleu sur du vert clair, aucun intérêt. Quoi. Mmh. Et voilà. Donc au niveau accessibilité, ça pêche énormément. Voilà, et je vous dis, bon, il y a des lois. Mais les avancements sont très très compliqués, la politique, ce n'est pas d'actualité, et moi entre guillemets je dis ce n'est pas la mode. Voilà, donc non, voilà, cette partie-là pêche énormément. Et personne n'y fait attention, ni les architectes, ni nos élus, hein, tout simplement, alors que ce soit municipaux, d'intercommunalités, députés, enfin voilà, tous. Je les mets tous dans le même sac, puisque de toute façon, c'est eux qui pondent les lois et qui signent les contrats. Mmh. Et rien n'est fait. Alors, vous savez, pour un peu contourner la loi, ce qu'ils font, ce qui est un peu désolant, c'est-à-dire que quand ils nous disent « Ah ben voilà, c'est accessible », alors ils vous mettent un petit panneau braille. Effectivement, bon, c'est bien, hein. Des petites bandes podotactiles, voilà. Hormis qu'il n'y a que 5% et encore de personnes qui lisent le braille. Donc, les personnes à 45, 50 ans, 60 ans, si elles se mettent au braille, c'est que c'est des personnes qui sont très, très fortes. Mais on est tous au lecteur d'écran, à la synthèse vocale. C'est tellement facile. Soit d'interroger, soit simplement d'aller tapoter sur son téléphone, sur sa tablette, ou d'aller taper sur son ordinateur, quoi, sur son clavier. Voilà. Donc, c'est un peu détourner un peu cette loi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de braille. Hein, les enfants ont besoin du braille pour prendre à lire et à écrire, hein, et avancer dans leur vie et à faire des études. Mais nous, qui sommes adultes, lors de notre perte visuelle, ben non, on ne s'y met pas, déjà, parce que c'est très compliqué. Déjà, il faut qu'on apprenne à appréhender des objets, à cuisiner, à repasser, à se déplacer dans notre vie de tous les jours. Donc, j'en connais très peu qui s'y mettent. Il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, voilà. Donc, un lieu n'est pas accessible parce qu'il y a une plaque braille. Mais s'il y avait... admettons, je sais pas moi, un petit dictaphone audio ou alors une synthèse vocale qui se déclenche à part une balise, tout simplement, ben, ça serait quand même plus intelligent et ce qui permettrait qu'on puisse, comme un feu sonore, vous voyez, juste qu'on puisse détecter et savoir où on est. Voilà, tout simplement. Rentrer dans une mairie, rentrer dans un office de tourisme. Nous, on peut passer devant... On a des balises hein, qui coûtent très peu d'argent. Mais il faut avoir la volonté de nos institutions et cette volonté n'existe pas. Voilà. C'est bien dommage.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Odile, à Jean-Louis et à Philippe. Il est fort probable que nous retrouvions Odile lors de la prochaine saison de l'Imaginoire, car oui, c'est officiel, l'émission reviendra sur les ondes en septembre prochain pour une 8e saison. Si vous aussi, vous voulez faire partie de cette prochaine saison, car vous avez des choses à dire et à partager, eh bien, contactez-nous et faisons ensemble. Faites-vous confiance. L'association Résonance, qui produit cette émission, vous accompagnera à votre rythme afin de faire entendre votre voix. Contactez-nous par mail l'imaginoir, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R, @lilo.org. Retrouvez-nous sur Instagram, l'imaginoir-du-8-radio, Facebook ou YouTube. Vous pouvez également contacter votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance. et soutenu par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.